Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Débrief l'actu ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, avec Claudia Cohen qui est là. Salut Claudia.
Salut François.
Ravi de te retrouver sur le plateau de Tech&Co. Tu es journaliste au Figaro, bien sûr.
Toujours.
Ça n'a pas bougé.
Non.
Et à tes côtés, eh bien, c'est Guillaume Grallet qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Guillaume.
Salut François.
Très heureux de t'accueillir. Guillaume Grallet qui est journaliste au Point, spécialisé dans les nouvelles technologies depuis quelques années maintenant. Le temps passe, mon
ça
cher
passe
Guillaume.
Ouais.
Et puis Frédéric Simotel, mon fidèle camarade.
Le temps passe aussi.
Le temps passe aussi, voilà, effectivement. Est-ce que tu vas éternuer ce soir, mon cher Fred ?
Je vais essayer de me retenir.
Oui, parce que pour tout vous dire, hier, c'était un festival d'éternuement de Frédéric Simotel. Comme quoi, ce n'est pas que de l'IA,
non, c'est, de la,
c'est aussi un humain.
C'était de la toux, oui.
C'était de la toux.
Voilà, c'est vrai que tu l'as mis seul là-bas, encore.
Voilà, trop loin. Il est dans une zone où il est totalement désinfecté.
C'est
pour ça. Bon, trêve de plaisanterie, on vous raconte un petit peu notre vie, mais l'actualité est très intéressante ce soir. Dans quelques instants, donc, on parlera de ce premier anniversaire de Threads, lancé à grand renfort de com' hein, l'année dernière. Hein. Mark Zuckerberg voulait, en fait, une réponse à Twitter. Un an après, qu'est-ce que ça donne ? On verra avec les chiffres. On parlera aussi d'un nouveau réseau social. Est-ce que vous avez entendu parler de NoPlace, les amis ?
Ce matin.
Mais voilà. C'est un réseau social qui est inspiré de MySpace et qui fait un carton. Il n'y a pas d'algo, visiblement. Enfin, voilà, on reviendra sur ce succès impromptu. On reviendra sur Qtay et sur Moshi. On en a beaucoup parlé hier soir. Mais je voulais avoir l'avis de Guillaume Grallet puisque Guillaume était à la présentation de Moshi hier. On évoquera aussi DJI qui... évidemment, sous la contrainte de la réglementation américaine, vous le savez, ne peut plus vendre de drones, se retrouve un petit peu étouffé sur le marché occidental et a décidé de se diversifier. C'est très intéressant et très intelligent, un peu comme Huawei finalement. Et vous savez quoi ? Maintenant, DJI va faire des vélos électriques. C'est dingue hein, quand même. Hein. Mais ils se servent de toute la technologie qu'ils ont, on va dire, apprise avec les drones, de la gestion de l'énergie, pour mettre ça, en fait, dans les vélos électriques, et puis les moteurs électriques, etc. etc. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, j'aimerais qu'on revienne sur le trafic Internet français. C'est vrai que chaque année, on a la chance de pouvoir commenter cette étude de l'ARCEP, qui a pour... analyser le tuyau de l'Internet des Français. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, alors il y a 15% de cet Internet qui est squatté par Netflix, mais ça, ce n'est que Netflix. Quand on rajoute, en fait, tous les GAFAM, on arrive, Fred, à, je crois, quasiment 50%.
Oui, c'est ça.
C'est énorme. Je sais pas ce que... Enfin, quand on voit ces chiffres, on se dit que véritablement, voilà, 50% de l'Internet provient des États-Unis, finalement. Je trouve que c'est vertigineux. Qu'est-ce que tu en penses, Claudia ?
Oui, c'est assez fou. On a vu... Alors, il faut dire quand même que chaque année, les résultats se ressemblent beaucoup. Depuis, en fait, l'arrivée des plateformes de streaming vidéo, ceux qui occupent... Il y a Netflix, ceux qui occupent beaucoup l'espace, évidemment, c'est Disney+. Après, t'as les vidéos, t'as Google, etc.
Google avec YouTube, bien sûr.
Avec YouTube, bien sûr, on voit qu'il y a une consommation de plus en plus importante. Et je pense que sur ce point, ça alimente tout à fait le discours et la volonté depuis des années des acteurs du secteur des télécoms de dire, en fait, vous qui finalement prenez toute la bande passante, maintenant il faut nous payer un petit peu pour qu'on puisse investir en fait dans des infrastructures avec un réseau de plus haute qualité. Pour l'instant, donc ça a été un appel lancé par les télécoms, oui. Comme Orange par exemple, cité en France, après il y en a plein d'autres en Europe, depuis des années.
Et ils même ont aux pas... États-Unis, AT&T, il y a un mois...
Aux États-Unis, pardon, évidemment.
Aussi,
Ils n'ont pas tellement été écoutés pour l'instant. L'idée, c'était d'avoir une taxe Netflix, en fait. Parce qu'en fait, plus les gens regardent des vidéos, plus on regarde du streaming, et plus, finalement, il y a un besoin énorme en réseau. Alors, eux, du coup, vu qu'ils sont quand même pointés du doigt dans chaque étude Netflix, bon, évidemment, ils n'en veulent pas de cette taxe, et ils disent qu'ils font tout pour améliorer, pour compresser l'énergie, faire
ils
en sorte
des efforts,
que...
je crois.
Ils font de vrais efforts, mais de toute façon, ils sont obligés de faire des efforts.
C'est intéressant. Guillaume, là-dessus.
Ouais, non.
Cette taxe, ça fait des années qu'on en parle.
Ouais, ça fait des années qu'on
en parle. Et on la voit pas arriver.
Ouais, c'est malheureusement, quand on voit le graphique que vous avez montré, c'est un peu une double faillite. C'est-à-dire qu'on voit bien, malheureusement, que les Dailymotion, etc., n'arrivent pas à s'imposer. Et puis surtout que les services de VOD, qui ont été lancés par les FAI, ont eux-mêmes du mal à s'imposer. Comme le disait Claudia, on aimerait, en fait, que ces géants d'Internet contribuent davantage aux infrastructures, mais on n'en prend pas véritablement le chemin aujourd'hui.
Mais c'est un peu comme le coucou, vous savez, cet oiseau qui va squatter les nids des autres. C'est un peu ça, finalement. Hein, c'est géant américain du divertissement.
Moi, dans le rapport, j'ai noté un petit alinéa, là, c'est que la croissance...
ralentit.
Représente, mais la croissance ralentit.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance trafic en 2023, elle est de plus 8%, alors qu'en 2022, elle était de plus 20%. Alors, la première chose, on se dit, oui, 2022, on sortait du Covid, on était à fond les cours interactifs, le streaming, le télétravail, etc. Et puis, quand on regarde un peu plus près, alors l'ARCEP dit, oui, mais attention, il y a aussi moins d'abonnés sur les plateformes de streaming, donc ça joue. Alors, les partages de comptes, Netflix, ont été retirés, donc évidemment, moins d'abonnés, moins de trafic. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on regarde au niveau technique et on se rend compte que, ben oui, la compression vidéo, ça marche plutôt bien. Hein, ouais. On réussit à... Alors là où on divisait le contenu par deux, aujourd'hui on réussit à diviser le contenu par cinq. Hein,
Avec la même qualité d'image, c'est ça. Imaginez un peu les économies que ça
peut faire à Netflix. L'optimisation des trafics, aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Alors du cloud, mais je vais dire du edge, parce que comme ça on comprend un peu techniquement, mais on rapproche un peu les serveurs des utilisateurs, alors pour plus de facilité, mais du coup ça fait moins de réseaux qui circulent un peu partout. Donc voilà, il y a l'optimisation des flux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi de la part des opérateurs, des opérateurs de tous ces fournisseurs d'accès, pour réduire un peu le trafic qui circule, et arrêter d'avoir des serveurs à droite, à gauche qui vont chercher du contenu je ne sais où. On essaie beaucoup de dupliquer un peu plus proche de l'utilisateur. Et là, on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait. Alors, c'est un travail aussi qui est lié à l'environnement. Je pense que tout ce qui est durabilité, on essaie de consommer un peu moins. Donc, comment on fait? Mais il y a vraiment des avancées technologiques aussi sur ce sujet-là.
Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le rapport de l'ARCEP sur ce sujet. Il disait que ChatGPT était en train de devenir la porte d'entrée d'Internet. On va simplifier, on va dire, le nouveau type de moteur de recherche. Et en fait, maintenant, en tout cas, il constatait que les derniers mois de 2023, en tout cas, les Français allaient de plus en plus chercher en fait quoi regarder, chercher leurs idées sur le chatbot plutôt que sur Google. Et du coup, ça pose de vraies questions sur l'avenir aussi, peut-être des moteurs de recherche plus globalement.
Bon, et puis ce qu'on peut gagner en fait en termes de consommation énergétique grâce à la compression sur les vidéos, eh bien les mêmes géants d'Internet qui sont aussi les grands acteurs de l'IA le repèrent. On se demande si Google va pouvoir respecter ses engagements en termes environnementaux, etc., à cause de la consommation énergétique.
Oui, la décarbonation, objectifs vont être compliqués à tenir,
s'il y a un miracle technologique.
Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, on le voit pas,
ce
miracle technologique.
Ouais, Google dit en 2030, on sera neutral, zéro émission. Mais derrière, on voit qu'ils rachètent beaucoup de crédits d'énergie renouvelable. Alors, on voit des. Alors, ça, c'est toujours ce qu'on dit, mais on attend de voir concrètement ce que ça va donner. Parce qu'on dit Microsoft est en train de voir comment ils pourraient installer des SMR, donc des petits. Des petits, c'est quand même la taille d'un terrain de tennis, mais des petites centrales nucléaires plus proches de leur data center. Donc on voit, ils ont quand même tous cette... Et on le disait, souviens-toi, Tim Cook, il y a 3-4 ans, il a deux obsessions. C'était au-delà des iPhones, qu'il faut que ça marche, etc. C'était la santé et les énergies renouvelables, c'était ces deux trucs.
Ouais, ouais.
Et Satya Nadella, il est un peu pareil, il a cette obsession d'énergie renouvelable, parce qu'ils se rendent compte quand même, puis c'est des gens, ils vivent sur la planète, ils sont pas, ils savent qu'ils sont pas éternels, mais enfin, ils y pensent quand même un petit peu.
Après, ils sont quand même beaucoup guidés par les régulations qui sont mises en place, et c'est vrai que les différents changements politiques qu'on peut voir au Parlement européen il y a quelques semaines, qu'on pourra voir peut-être aux États-Unis, je pense...
Petit, pour l'instant, tant qu'on leur dit « Oh, vous êtes à 3-4% de l'émission mondiale », bon, personne s'affole. Par contre, c'est vrai que si ça commence à monter à 8, 10, 12, 15%, on va commencer à dire oui, les gars, là, attendez de vous.
Alors, un peu. Ce qui est intéressant aussi avec l'IA générative, c'est que ça va peut-être aussi bouleverser un peu cette carte de ce réseau Internet français et un peu mondial, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la voix est en train d'exploser en IA générative. Et ça. Non, pas tant que ça, parce que tu parles maintenant et tu remontes aussi. Et c'est rigolo parce que à Vivatech, j'ai rencontré le directeur de l'innovation d'Orange, que tu connais bien, et qui nous expliquait qu'ils voyaient ça arriver, en fait, sur leur réseau 4G et 5G.
Oui, mais la voix en poids, c'est beaucoup moins que l'image.
Ouais, mais avant, elle n'existait pas, cette voix. Et ça fait quand même de la data supplémentaire qui part sur les réseaux. Je suis un peu d'accord, mais pour eux, c'était un vrai sujet. Et il fallait qu'ils mettent à jour les réseaux, justement, pour encaisser toutes ces requêtes qui sont faites par la voix.
C'est une sorte de priorité, du coup, peut-être qu'ils sont.
Peut-être.
La voix doit être.
Bon, en tout cas, toujours intéressante, cette enquête de l'ARCEP. Allez, on remonte un an en arrière. On était tous excités comme des puces avec le nouveau réseau social de Meta, Threads, qu'on n'a pas pu tester tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Américains ont tout de suite pu, évidemment, s'inscrire. Mais nous, il a fallu qu'on attende, je crois, la rentrée 2023 pour pouvoir accéder,
c'est
en fait.
C'est pas décembre ? C'est pas décembre 2023 ? Enfin bon.
Ouais, c'était fin d'année.
Ouais, je vais regarder. C'est peut-être plus tard, en effet. Mais en tous les cas, ça y est, on a tous maintenant Threads. Mark Zuckerberg ne s'en est jamais caché. Hein. Il voulait créer un peu le contrepoids à X, hein, donc anciennement Twitter, et avoir un réseau qui ressemble à X, comme deux gouttes d'eau. Hein. Vous pouvez poster, vous pouvez reposter, vous pouvez liker, vous pouvez répondre, vous pouvez poster des vidéos, etc. Mais avec une particularité, sans avoir le côté un peu anxiogène de Twitter et avoir des infos qui partent n'importe où, n'importe comment, et qui disent n'importe quoi. C'était ça un peu le principe de Threads.
Pas de polémique, voilà, les trucs plutôt gentils.
Voilà, et donc, Adam Mosseri, qui est le grand patron des réseaux sociaux de chez Meta, a annoncé ce chiffre de 175 millions. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que 175 millions ? En fait, ce sont 175 millions d'utilisateurs actifs tous les mois sur Threads. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ?
Non, bah c'est sûr qu'on est un peu déçus parce que ça n'a pas vraiment cartonné, cette fameuse pluralité hein, sur ces messageries instantanées. On l'a pas, on l'a espéré un moment avec Mastodon, mais on s'est vu que c'était, même s'il y a la vraie décentralisation, très difficile à utiliser, même si ça c'est un peu plus facile avec les hashtags. Blue Sky, qui était aussi en accès réservé, c'est-à-dire qu'il fallait être invité, et qui avait été initié par Jack Dorsey, qu'on a vu à la création de Twitter, avait pas mal de promesses également, mais Blue Sky, ça fonctionne pas vraiment non plus. Et on n'a pas encore cette pluralité. En fait, je m'en suis rendu compte cette semaine parce que j'ai appelé un mathématicien qui s'appelle David Chavalrias, qui est directeur de recherche au CNRS et qui s'est intéressé à la manière dont ce qu'on attribue aux bots de désinformation russes vont sur les réseaux sociaux. Et il a fait une cartographie absolument géniale sur Twitter sur les thèmes qui vont créer le plus de discord. Et en fait, il m'a dit, je me suis intéressé à Twitter parce que même si moi-même je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, c'est quand même chez Twitter que continuent à s'exprimer les leaders d'opinion, que là où se fait se crée souvent l'opinion.
Oui, le pari de Thread, c'était quand même qu'en face le gros, alors là X il revendique Elon Musk 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels, que X allait un peu s'effondrer parce que les politiques, parce que les marques aussi, parce que les utilisateurs allaient partir. C'est complètement faux, là on le voit avec l'actualité politique effervescente partout dans le monde, tout se passe sur Twitter, même d'un point de vue sportif, aussi actualité sportive, toutes les conversations, si on se réfère à la France, sur Roland Garros, c'était quand même sur Twitter, là les JO, ça se joue aussi sur Twitter, du coup, enfin sur X, pardon, du coup il y a cette idée que, en fait, quelle est finalement l'identité de Thread, parce que le fondateur a parié sur une image, disons, plus consensuelle, qui allait plaire. Or, on se rend compte que, malgré ce que les gens disent, on n'aime pas forcément cette consensualité. Et puis aussi en termes de possibilités de fonctionnalités, il n'y a pas non plus grand chose de plus que sur X, donc il manque une identité et il manque aussi des fonctionnalités, et voilà. Et moi ça m'étonne aussi de voir plus généralement dans les réseaux sociaux, on n'a pas vu encore, peut-être on verra, mais de quelle façon l'IA générative pourra transformer l'expérience en fait qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. On ne voit pas encore. Et moi, je pense que c'est là où il y a vraiment un truc à jouer, quoi.
Déjà, ils ont ouvert la porte plus vite, puisqu'on était lié à son compte Instagram. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de pub, c'était facile à utiliser, c'était plus de 500 caractères.
Il n'y a toujours pas de pub, hein, d'ailleurs.
Oui, toujours pas de pub. C'était 500 caractères, on pouvait mettre de l'image, de la vidéo, tout ce qu'on voulait. Ils ont quand même eu un petit souci. Comme par hasard, c'est le groupe Meta de confidentialité des données qui a d'ailleurs retardé un peu cette partie-là. Ça, c'est toujours un problème chez Meta. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que X Twitter, il s'en sort porte bien et les innovations, ça marche bien. Et alors après, on peut critiquer les contenus, voilà, comment on reçoit un peu son fil d'actu. Bah oui, mais si on a la petite pastille bleue, ben on arrive à avoir du contenu. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, là on est en plein plongé dedans dans cette campagne politique. Oui, c'est tout se fait que sur X Twitter, hein, ça continue. Donc il a réussi à imposer ça. Et de l'autre côté, X Twitter, ils ont réussi à bien à gérer la chose. C'est vrai qu'on entend moins de polémiques autour de. Alors Elon Musk s'en est un peu éloigné. Enfin, s'en est un peu éloigné. C'est Linda Yaccarino, même si bon, il se frictionne un petit peu, mais en tout cas, c'est elle qui gère ça. Mm-hmm. Lui, il s'intéresse à la technique et tout ça, mais il est beaucoup moins dans les grandes.
Il était à Cannes quand même. Il était à Cannes. Il y a eu le grand raout des publicitaires. Il est venu à Cannes avec ses.
Oui, il a fait un peu la danse du vent.
Voilà, mais d'un point de vue. Moi, ce que je sais, c'est d'un point de vue opérationnel, il donne ses idées, tout ça, mais il est plus en train de dire faut faire tel service, tel truc. Tel... Il a laissé.
Il s'est un peu calmé, c'est vrai.
Il s'est un peu calmé là-dessus, et d'ailleurs, on le voit. Et bon, après, il faut rassurer encore les annonceurs, mais. Oui, il faut voir que ça marche bien, quoi. C'est pas.
C'est vrai, Guillaume, que la puissance de Twitter, elle a pas été trop écornée.
On a eu peur à un moment. Hein, on s'est tous dit que ça allait.
Aujourd'hui, toute l'actualité se fait sur Twitter. Mm-hmm. Dès qu'il y a un clash.
Ouais, non. Et puis je posais encore une fois la question à ce chercheur en information. Il expliquait. Je disais mais pourquoi il n'y a pas des contre-influenceurs qui vont rétablir la vérité, etc. Mais il me disait. Malheureusement, mon étude, elle porte que sur les comptes ou les messages qui sont repostés au moins 5 fois, et qu'une bonne nouvelle ou une nouvelle identifiée comme la plus juste, qui par exemple peut être un peu complexe, eh bien, elle va être beaucoup moins partagée qu'une fake news, malheureusement, aujourd'hui. Quoi. Donc,
Peut-être que ce serait un corner à trouver dans une spécialité, on va dire, vu que c'est pas la politique, vu que c'est pas. C'est, peut-être qu'il y a
des choses à apprendre
sur le divertissement, la culture. Enfin, il y a peut-être des choses à
ouais, visiblement, Taylor Swift est sur Threads, donc c'est quand même.
Mais
il faut bien qu'on l'accueille quand même.
Qui joue un peu ce rôle-là, ouais, Instagram, où tu partages tes.
Oui, si, si.
Voilà, c'est. Après, on le voit
Madame
tous.
Madame Masri, c'est le boss d'Insta.
Non, mais on voit tous déjà, nous, nos messageries, entre notre messagerie pro, perso, en plus perso, si on en a 2-3, on nous communique avec nous sur LinkedIn, on communique avec nous sur Twitter. Enfin, tu vois, si, pareil pour les réseaux sociaux, ça commence à.
Et le problème, c'est que.
Une journée à gérer déjà tout.
Tu l'as dit tout à l'heure, Fred, c'est vrai que Insta et Threads sont véritablement impliqués. Et je sais pas, enfin, moi, je regarde un peu Insta de temps en temps, et souvent, on propose d'aller sur Threads pour commenter l'actu, pour réagir à des posts, etc. Donc il y a aussi on vous pousse à aller sur Threads. Et ça gonfle aussi, je pense, artificiellement l'audience, parce que tu es sur Insta, tu regardes un peu ce qui se passe, sans faire exprès, tu cliques, paf, tu arrives sur Threads. Donc il y a ça aussi.
Ils regardent, alors il faut regarder de près, mais je trouve que les marques, quand elles disent retrouvez-nous sur Facebook, moi, je vois pas souvent Threads. Hein,
non.
Facebook, X, LinkedIn.
Ouais, c'est vrai que c'est pas encore la folie. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Threads. On enchaîne sur un autre réseau social qui, lui, est tout frais. Il s'appelle No Place. Et on doit ça, en fait, à une jeune femme qui, en fait, se souvenait que quand elle était ado, elle se servait de MySpace. Et elle aimait bien le côté, un peu, la candeur de MySpace. Voilà, où tu pouvais commenter des petits posts et tout. Enfin, il y avait un côté un peu frais et léger, finalement, de MySpace qui a un petit peu disparu, c'est vrai, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, hein, qu'on parle de TikTok, d'Insta ou de X. Et donc, ce qu'elle a essayé de faire, cette dame, c'est de remettre un peu au goût du jour ce MySpace avec cette appli qui s'appelle No Place. Elle s'appelle Tiffany Zong. Et donc, elle lance ça. Et on se dit, bon, voilà, encore un réseau social. Ouais. Qui va aller sur un réseau social? Eh bien, le pire dans tout ça, c'est que ça cartonne. C'est un réseau social qui est, depuis disponible depuis le 3 juillet et qui est numéro 1 sur l'App Store américain, quand même. C'est fou. Vous avez entendu parler de ce truc-là? De No Place?
Très honnêtement, ce matin, parce qu'on a fait un papier dans le Figaro aussi là-dessus, je pense, comme beaucoup de médias, mais sinon pas tellement. Mais je suis pas sûre, moi, d'être la cible
c'est
aussi
la Gen
du.
C'est la Gen Z, en génération Z, voilà. Donc c'est.
Moi, je suis juste au-dessus, donc voilà. C'est fini pour moi.
Eh oui.
On parlait, Guillaume, de tous ces réseaux sociaux. Encore un.
Ouais.
C'est alors là, il que... y a eu une hype tout de suite, voilà, numéro un sur l'App Store, mais est-ce que ça va durer?
Ouais, on ne sait pas, effectivement. Moi, on a besoin de ce genre de réseau un peu plus cool, surtout en ce moment, où les esprits sont un petit peu échauffés. Mais il y a aussi une autre concurrence dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais qui va dans le sens de ce que disait Frédéric, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sollicité de toutes parts. C'est le fait que des messageries professionnelles, dites professionnelles, comme certaines de Google, Microsoft, mais aussi Slack, sont de plus en plus présentes dans nos vies. C'est-à-dire que Slack, par exemple, je parlais avec des dirigeants récemment, ils me montraient certaines fonctionnalités qui sont vraiment super intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un message qui va vous récapituler lorsque vous êtes déconnecté pendant une nuit, bien sûr, mais un week-end, va vous rappeler les messages les plus importants, va vous tenir compte aussi de votre fuseau horaire si vous ou un de vos collaborateurs est en voyage, tenir compte aussi de certains horaires de travail. Donc il y a des choses assez intéressantes, certaines innovations qui reviennent des messageries professionnelles, donc qui vont aussi un peu concurrencer ce genre de messages.
Il y a également ce côté, parce que c'est vrai que ces dernières années, on est tous devenus, l'utilisateur est devenu assez passif sur les réseaux sociaux. Avant, tu postais, tu commentais, tu partageais réellement ta vie. Et là, avec la poussée de plus en plus importante des algorithmes, que ce soit sur TikTok, qui paraissait un peu plus authentique au début, que ce soit sur Instagram, en fait, je sais pas vous, mais moi, les gens autour de moi, plus personne ne poste rien. Et vous avez vraiment
tout le temps
en réception. Et vous avez vraiment tout un univers économique qui est trusté par les publicitaires, par les marques qui envahissent aujourd'hui TikTok, qui envahissent Instagram. Et en fait, la notion même de réseau social, elle disparaît un peu finalement.
Voilà, bon, écoutez, si vous avez un App Store américain, vous pouvez tester.
TikTok devient même parfois le moteur de recherche de certaines générations.
Ouais. Ah mais bien sûr, comme Instagram est un moteur de recherche pour plein de gens. Vous cherchez un resto, un hôtel, il y en a plein qui vont sur Insta et non plus sur Google. Hein. Ce que je voulais dire concernant ce réseau, No Place, c'est que donc il a un côté un peu vintage, visiblement, et c'est un peu comme un gigantesque forum où tous les utilisateurs peuvent en fait publier des messages à l'ensemble des internautes ou dans leur cercle proche, et on peut pas mettre de vidéos, pas de photos, c'est vraiment... Voilà, il y a un côté vintage dans ce truc-là. On va voir si ça va marcher. Bon, écoutez, No Place, ça s'appelle. Pas encore disponible en France. On verra si ça arrive un jour chez nous. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on évoque tous ensemble le gros titre d'actualité d'hier de Tech & Co, la quotidienne. C'était Qtie et l'arrivée de Moshi, qui nous a tous bluffés. Rappelons-le, hein, cet assistant vocal boosté à l'IA avec lequel vous pouvez avoir une discussion impressionnante. Alors pour l'instant, c'est qu'en anglais, c'est pas encore parfait, c'est de la démo. Mais Guillaume, je voulais avoir ton avis et Claudia aussi là-dessus, puisque vous n'étiez pas avec nous hier, on en a beaucoup parlé, mais tu étais à la présentation de Moshi hier. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bon, alors, il y a plusieurs choses, hein, pour faire très vite, mais je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé hier. C'est le côté très ouvert, c'est-à-dire c'est une équipe de passionnés. On a un peu l'impression d'avoir le OpenAI des débuts avec cette équipe, mais qui publie leurs recherches, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa lorsque j'ai testé Moshi, c'est que côté désagréable, elle va te répondre avant même que tu aies fini ta question. Je pense que c'est pour montrer la latence, mais le manque de latence, l'absence de latence, et ça fonctionne super bien. Et puis il y a plusieurs choses très rigolotes, c'est qu'elle a de l'humour, elle peut adapter son ton. On a vu des démonstrations sur les accents, sur certaines intonations. Ça marche vachement bien. On a envie d'avoir ça en français, mais c'est surtout aussi les discussions avec les chercheurs. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Neil, son prénom, qui a beaucoup travaillé dans l'audio. Je sais qu'ils ont beaucoup de projets aussi dans la vidéo, peut-être à terme dans la médecine, mais ils veulent garder ce côté très ouvert, très, très labo, un petit peu comme DeepMind avec Isomorphic Labs, mais en restant véritablement ouvert. Je trouve ça vraiment...
C'est leur ADN. Hein.
C'est leur ADN. Et on a vraiment l'impression que ça les habite. Et il y a eu un accueil assez formidable du monde entier.
Qtie qui ne s'en cache pas va être un peu le petit OpenAI français. Hein,
c'est ça.
Finalement.
C'est la promesse du début d'OpenAI. Hein, que...
ouais, exactement. J'ai lu que ça leur avait coûté 10 millions d'euros pour développer Moshi. Finalement, à côté des 300 millions qui étaient la mise de départ, c'est pas énorme. Et le résultat est assez bluffant, Claudia, non?
Oui, le résultat est bluffant. Et moi, j'ai envie de dire, on voit vraiment comment l'IA générative relance complètement la bataille des assistants vocaux. Parce que quand on va avoir un ton, voilà, les assistants vocaux, les Alexa, on aime bien ça, mais il y avait quand même un côté assez monocorde, assez robotique. Là, on arrive dans une toute nouvelle dimension. Et je pense que l'enjeu, quand même, pour eux, ce sera déjà, comme tu disais, il y a un enjeu de souveraineté, mais donc on espère voir quand ça arrivera une version française aussi. Et il y aura un vrai enjeu d'aller toquer à la porte aussi des pourvoyeurs des institutions, des médias aussi, du monde différent de la culture, pour essayer d'absorber aussi, ouais, via des partenariats, le plus de données, quoi.
Et puis, ouais, et puis très rapidement, pour entraîner cette voix, pour entraîner Moshi, en fait, c'est le jeu d'une actrice, en fait. J'ai parlé avec son papa hier, il me disait, j'ai un peu l'impression d'entendre ma fille qui répond à des millions ou des milliers de personnes en même temps, un peu comme dans le film Heure. Mais cette fille, elle est assez rigolote, parce qu'en fait, elle a, véritablement, c'est un jeu d'acteur, elle sait enregistrer avec différentes voix, différentes intonations, et c'est ce qui permet d'avoir ce ton si naturel.
Après, Fred, c'est la question qu'on se posait un peu hier, le modèle économique, ça va être quoi? Moshi, ça va être quoi? Est-ce que ça va être, un abonnement?
C'est assez malin.
Est-ce que c'est une vitrine technologique?
C'est-à-dire qu'ils disent, bon, on a voulu montrer ça pour avoir d'autres sponsors, hein, ils s'en cachent, ouais, pas, mais en même temps, il y a déjà des applications. Alors, ils fonctionnent en certaine manière avec Scaleway, mais aussi ça pourrait être utilisé dans des centres d'appel, par exemple d'Iliad, pour répondre de manière assez naturelle aux clients. Eux se défendent d'avoir tout but lucratif, hein. Ils veulent mettre ça à disposition. Okay. Et l'autre chose, parce qu'on leur a dit, mais vous êtes en train de nous faire ce qu'a fait GPT-4o il y a quelques mois. Eux, ils disent, ben nous, on met ça à disposition du grand public et on peut tester le service sur leur compte Twitter.
Et puis on est que sur la voix, quoi. ChatGPT derrière, ils ont aussi
bien sûr
des images et tout.
C'est
ça.
Beaucoup plus multimodal. Ouais.
Donc ils ont. Ouais.
Mais rappelons qu'ils ont développé ça à 8 en 6 mois.
Donc, ouais. C'est très bien de voir les utilités sociales quand même, ouais, de ce genre.
Et moi, j'ai dit juste pour oui, Claudia et Guillaume, hier, moi, ce sur quoi j'insistais aussi, c'est le côté, et qu'on retrouve chez Mistral, par rapport aux Américains, c'est le côté frugalité dans le développement. Enfin, on développe ce genre de choses, on essaie de se mettre des contraintes.
On est en mode start-up, vraiment.
Ouais, ouais. Et il ne faut pas, alors, la dépense, c'est clair, mais la consommation de bandes passantes, ouais, de processeurs et tout ça, et ça, c'est très français. Mistral, ouais, est très fort dans ce domaine, c'est ce qui fait leur particularité. Voilà, on n'est pas avec comme les Américains qui j'ouvre le placard, j'ai tout ça, allez, on y va. Là, et justement, ça c'est toutes les astuces et l'école mathématique informatique française de vraiment. On se met des difficultés, mais on aime travailler sous contrainte.
On va revenir sur Qtail juste après les infos, parce que il y avait une petite démo que je voulais vous faire écouter, parce que tu l'expliquais. Donc cette comédienne a enregistré sa voix pour après qu'elle devienne finalement la voix officielle de Moshi. Ce qui est dingue, c'est que en fait, Qtail a réussi une vraie prouesse technologique. Il suffit de parler 7 secondes pour qu'après on puisse générer avec votre voix et vos intonations n'importe quoi. On va vous faire écouter juste après l'info écho les propos de Xavier Niel qui ont été diffusés pendant cette keynote. C'est totalement bluffant. Je vous invite à rester avec nous. On vous raconte cette histoire juste après l'info écho, bientôt 20h30. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Après ce balai incroyable de journalistes qui virevoltaient autour de ce plateau, là, j'avais l'impression d'être au roi Lyon. Il est temps de repartir dans l'actu. Frédéric Simotel est là, Claudia Cohen du Figaro, Guillaume Grallet du Point. On va terminer sur Qtail. On évoquait tout à l'heure donc Moshi, qui est cette intelligence artificielle donc générative, cette assistante vocale impressionnante, hein, de par sa rapidité de d'interaction avec l'humain. Ça, c'était la première partie, mais durant cette keynote, hein, organisée par les ingénieurs de chez Qtail, il y avait cette possibilité de mémoriser, en fait, de numériser 7 secondes d'une voix pour après arriver à la perfection à reproduire cette voix de manière infinie avec les bonnes intonations. Guillaume, tu as vu ça, c'était impressionnant. Tu nous dis ce que tu en penses juste après le petit extrait qu'on va vous passer maintenant. Écoutez ça.
Nous avons gentiment été autorisés à utiliser un échantillon de voix bien connu que je vais vous jouer tout de suite.
Il va être l'émergence de l'intelligence artificielle partout dans nos vies. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise va être basé sur des algorithmes.
Vous avez tous reconnu la voix, c'est Xavier Niel. Et si on donne cet extrait de 7 secondes à notre modèle, vous pouvez obtenir ça.
ces mécanismes que vous avez, ils sont là, il suffit juste de savoir les utiliser et de l'avancer et de les paramétrer pour que cela devienne utilisable et soit le plus efficient possible. Ça, c'est un point qui est majeur et c'est l'émergence de l'intelligence artificielle.
Donc, pour qu'on comprenne bien, si vous êtes avec nous à la radio, la dernière partie des propos de Xavier Niel n'ont jamais existé, en fait. Il n'a jamais dit ça. Simplement, les ingénieurs de QTI ont enregistré sa voix pendant 7 secondes et l'IA est arrivée à recréer la voix de Xavier Niel avec ses intonations, ses respirations, ses hésitations. C'est dingue.
Ouais, c'est assez confondant. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que Xavier Niel s'est exprimé, a dit ses phrases, alors qu'en fait c'est l'IA qui s'est inspirée. Alors on avait déjà vu des papiers de recherche hein, qui, notamment ceux d'un projet qui s'appelle Val-E, qui a été publié par Microsoft, qui montrait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on faisait dire ce qu'on voulait à une personne, et surtout dans n'importe quelle humeur, c'est-à-dire avec la colère, avec de l'humour, en rigolant. Mais là, c'est la première démonstration en français que je vois quasiment en direct. Alors j'ai parlé après avec les chercheurs, ils m'ont dit que c'était facile à faire, mais que pour l'instant, ils n'allaient pas, à la différence de la conversation avec Moshi, hein, dont on a parlé tout à l'heure, ils n'allaient pas le rendre accessible dans un premier temps, parce que ça pourrait rendre les deepfakes, ces fameuses manipulations, trop faciles, et donc cette déformation de la vérité.
Mais on est d'accord que ça, c'est un peu de l'hypocrisie, je trouve, parce que aujourd'hui, si eux arrivent à le faire, dans quelques mois, c'est des trucs qu'on achètera sur étagère, non, Guillaume ? N'importe qui va pouvoir prendre la voix de n'importe qui pour lui faire dire n'importe quoi. C'est déjà un peu le cas, d'ailleurs.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est bien aussi de montrer que les chercheurs eux-mêmes se fixent des limites, parce que c'est ce qu'on leur demande beaucoup. Et c'est important aussi d'avoir cette
Là, c'était cette plus discussion. Une démonstration technologique. Ça n'arrivera peut-être jamais, ça, en faculté.
Ouais, non, là, moi, je suis content. C'est-à-dire qu'on a une équipe à Paris, hein, pas uniquement de chercheurs français, d'ailleurs, beaucoup de chercheurs étrangers, qui s'est rassemblée, qui décide d'être totalement ouverte. Encore une fois, c'était les promesses d'OpenAI 2015, à ses débuts, qui n'ont pas été respecté. Et en plus, on voit qu'on rivalise avec les Américains. Donc on peut être fier de notre recherche. Et c'est ça, en fait, qui me réjouit aujourd'hui.
Et moi, je rajoutais quelque chose hier, alors qui tombe un peu à propos, parce que le CMA-CGM nous a racheté. Mais moi, ce que je trouve bien dans cette.
Alors tu dis ça parce que, parce que l'un des investisseurs de QTI, c'est Rodolphe Saadé.
Voilà,
le patron de CMA-CGM, le nouveau propriétaire de BFM.
Et donc on voit des industriels qui. C'est pas que Xavier Niel qui vit dans l'univers tech, Eric Schmidt qui vit aussi dans cet univers tech de fonds d'investissement. On a Rodolphe Saadé qui est le patron de CMA-CGM et aujourd'hui le patron de BFM, mais qui est un industriel, hein, qui la tech.
Et qui voit sans doute son intérêt.
Et là, évidemment. Et là, pour moi, c'est un appel lancé à toutes les entreprises, notamment en France, de soutenir les Mistral, de soutenir les Lighton, de soutenir les Dust, les Photoroom, enfin tous les Giscard.
Les H, oui.
Et c'est là où on se dit, mais allez-y, là, il y a un industriel qui vous montre le chemin, mais faites-le, quoi. N'attendez pas. Alors, ils travaillent tous déjà avec de l'OpenAI et tout ça, mais on a des boîtes françaises et allez-y, investissez. Alors, je crois que L'Oréal regarde Mistral d'un peu plus près, mais c'est vrai que dans les 600 millions de Mistral, on aimerait qu'il y ait un 100 millions qui viennent de
sociétés françaises. C'est ce qu'on disait plusieurs fois sur ce plateau, c'est-à-dire sur des secteurs très stratégiques qui en plus commencent à être très incarnés.
L'énergie, la santé.
Exactement. C'est pas le moment de se dire on a une enveloppe, on met tout là-dessus parce qu'en face. Et puis les limites dont tu parlais aussi qui ont été fixées, peut-être jusqu'à quand aussi, parce que si la concurrence en face, par exemple, cette démonstration de joie aux États-Unis, on
voit. Si OpenAI lâche le même outil.
Voilà, et au final, ils vont le sortir parce que ça sert à rien si l'outil existe, qu'on utilise un outil d'un autre pays, alors que nous, on est capable de faire ça aussi.
Il y aura quelqu'un qui, un jour ou l'autre, franchira le pas. C'est obligé.
Mais surtout, comme l'a dit Guillaume, c'est pas très compliqué. Le compliqué, c'est le côté temps réel, prendre avec très peu de 7 secondes de Xavier Niel. Le reste, synthèse vocale, tout ça existe.
Ouais, mais la petite différence, enfin, si je puis me permettre, c'est effectivement, si les OpenAI le relisent, enfin le rendent disponible, là, avec QTI, c'est qu'on rend disponible aussi la possibilité de s'emparer des outils. C'est un petit peu la limite de l'open source. Et moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire que je préfère qu'il reste ouvert. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu ce qu'il y a sous le capot et puis qu'il se fixe un peu de limite. Après, on va voir si effectivement c'est respecté ou si je suis un peu trop bisounours.
C'est ce que défend Meta avec son modèle Llama. C'est ce que défendait OpenAI au début avec sa partie ChatGPT. Puis maintenant, voilà, on est parti sur d'autres voies.
Voilà, on referme la parenthèse parenthèse QT, mais bon, c'est vrai qu'on en a parlé hier, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'on est très fiers de tout ça. Et même si, évidemment, ce n'est pas encore au niveau d'OpenAI, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de pays qui arrivent à avoir un assistant vocal dopé à l'IA générative comme celui-ci.
On l'a dit beaucoup que, quand même, la France était une terre de chercheurs, de génies en intelligence artificielle. Donc, c'est très très bien qu'on voit ça et que tous ne sont pas ailleurs en train de créer des choses qui ne sont pas pour la souveraineté française.
Et justement, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que de la même façon que chez Mistral, mais chez d'autres aussi, c'est des gens QTI, ils ont travaillé 10, 12, 15 ans chez les gérants, géants américains. C'est pas soit des chercheurs qui ont monté leur, il y en a peut-être quelques-uns, des chercheurs qui tout de suite basculent dans le mode start-up, ou des étudiants hyper brillants qui sortent de leurs écoles, de leur université, qui créent leur start-up. Non, on a des gens qui ont vécu
Qui ont déjà une vie professionnelle.
Peut-être aux États-Unis ou en France, mais en tout cas, qui ont été chez ces géants américains, qui voient un peu tous les avantages, les inconvénients, enfin les atouts de travailler dans ces groupes et comment les formes de travail et tout ça. Et puis, de l'autre côté, qui voient aussi les défauts. Et donc, petite équipe, on prend le meilleur de tout ça et on y arrive.
Voilà, et on les paye bien. Parce que c'est aussi la particularité de QTI, c'est qu'ils payent ses ingénieurs.
C'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure des 300 millions en disant ouais, 10 millions, ça coûte pas cher, mais derrière, il y a
beaucoup de salaires.
Il y a des salaires aussi, il ne faut pas les oublier.
Allez, on enchaîne avec DJI. DJI, alors peut-être que vous ne connaissez pas cette marque, ce constructeur de drones, qui est hyper connu en Asie. Les fans de drones ne pensent que par DJI, parce que c'est vraiment le meilleur constructeur de drones. Hein. Moi, j'ai pu en tester un il n'y a pas longtemps, là, un tout petit truc. Vous mettez un masque qui intègre en fait des écrans, et en fait, vous avez l'impression d'être un oiseau. Et vous pilotez ça d'une manière très très simple. Il y a plein d'aides au pilotage qui font que vous ne vous plantez jamais. Et ça filme en 4K, avec des images incroyables. Franchement, c'est bluffant. Ce qui est intéressant, c'est que DJI, Guillaume, se retrouve dans une situation un peu comme Huawei.
C'est ça.
Finalement.
On a un peu l'impression que c'est une nouvelle victime de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. On avait vu Huawei qui a encore quelques années été le roi du monde sur les téléphones, on le voyait, mais surtout les infrastructures de réseau.
La 5G.
Et puis avec cette grosse pression de Washington, pousser pas mal de capitales européennes, en tout cas sur leur sol, à s'en passer dans leur cœur de réseau. On n'entend plus parler de ces terminaux. DJI, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on leur interdit une partie du marché américain, ils doivent se réinventer. Huawei, pour la petite histoire, n'est pas mort du tout, c'est-à-dire que non seulement ils sont très actifs toujours en Afrique sur les cœurs de réseau, ils se sont beaucoup réinventés dans l'énergie, dans ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire l'énergie intelligente, et là on voit une tentative de réinvention de DJI à travers les vélos. C'est beaucoup plus sympa, c'est peut-être un peu moins stratégique, on a un peu l'impression qu'ils suivent aussi les pas du chinois Xiaomi.
Oui, parce que rappelons-le, je crois qu'il est interdit de vendre des drones DJI aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'un drone, ça communique avec le sol, ça a des capteurs, ça prend des images, et il y a toujours cette... je ne sais pas si c'est une phobie ou si c'est une obsession américaine, que toutes ces données échappent en fait à l'utilisateur, au pilote du drone, et aillent directement à Pékin.
On parle des voitures chinoises, du coup, qui vont arriver sur le sol américain, parce que...
Il n'y en a pas beaucoup, les voitures chinoises. Hein.
Non, mais tu vois, on peut s'appeler loin. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais il y a juste un mot, juste pour rebondir deux secondes, sur ce que disait Guillaume sur Nvidia, sur Huawei, et Huawei a tellement bien rebondi que même en termes de processeurs et tout ça, ils sont en train d'avancer assez vite, et à tel point que Nvidia, il y a eu des calculs qui ont été faits, Nvidia fait quand même 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine malgré les restrictions et tout ça, parce qu'ils sont en train de contrôler, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre un marché chinois si on laisse Huawei se développer, alors même avec des trucs moins puissants, etc., enfin, un peu contraint, restreint, mode dégradé, parce qu'ils n'ont pas accès à certaines technologies. Mais voilà, on voit, ils savent bien rebondir, hein, les Chinois.
Et donc, l'actu, c'est que, tu le disais, DJI n'arrête pas les drones, mais se dit, pour ne pas mourir finalement, parce que si ils ne peuvent plus vendre de drones aujourd'hui aux États-Unis, peut-être que ce sera en Europe demain, on ne sait pas, hein, finalement. Eh bien, ils se lancent sur un nouveau marché, sur les vélos, les VTT électriques. Et on se dit, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il y a plein de technos, on va dire, qui sont dans les deux appareils. Ouais, dans un drone.
La batterie, les capteurs.
La gestion des moteurs. Alors, ce n'est pas les mêmes moteurs, bien évidemment. On n'a pas le même moteur sur un drone que sur un vélo. Mais en tous les cas, ils s'inspirent de tout ce qu'ils ont, tout leur savoir-faire technologique, qui est immense dans les drones, pour maintenant lancer des VTT.
C'est malin parce que c'est un marché qui est là et c'est un marché premium aussi parce qu'on est sur des vélos qui coûtent très très cher. C'est plusieurs milliers d'euros les vélos en tout cas qui sont en train de sortir. On sait qu'il y a une utilisation de plus en plus croissante aussi évidemment de ce type de vélo. Donc bon, s'il fallait une solution rapide à trouver, c'était la bonne et je pense qu'on va peut-être voir des déclinaisons aussi de produits et de marchés sur lesquels ils vont aller en fait.
Non, puis ils ont appris, alors je reviens, c'est mon grand mot du soir, sous contrainte, enfin, ils ont travaillé sur le poids, sur la taille, sur des batteries toujours plus puissantes, sur enfin tout ce qui peut être capteur à bord. Et ça, pour un vélo, c'est essentiel. Hein, des vélos électriques, on veut qu'ils pèsent le moins possible, on veut qu'ils aient une batterie toujours plus, enfin, qui dure toujours plus longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont certainement des enseignements à attirer de ce qu'ils ont fait pour les drones. Et on se dit d'ailleurs, pourquoi les autres n'y ont pas pensé avant, quelque part.
Oui, c'est clair.
Les vélos parottes.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, certains experts, en tout cas analystes, imaginent la suite pour DJI, parce que si on se rapproche du vélo, on se rapproche de la mobilité, et justement, avec tous les capteurs, tout le savoir-faire qu'ils ont en termes d'algorithmes, d'IA, etc., certains imaginent même qu'ils pourraient proposer des véhicules autonomes demain, parce que toutes ces technologies, finalement, sont similaires. Hein. On le voit avec Tesla, hein, le robot Optimus de Tesla fonctionne avec des capteurs qu'il y a dans les véhicules Tesla. Donc on se dit que, voilà, alors pour l'instant, DJI ne dit rien là-dessus, mais peut-être que DJI vendra ces technologies comme un équipementier, finalement, automobile, à des constructeurs. Pourquoi pas? En tout cas, ça va être intéressant. Et moi, j'adore ces boîtes qui arrivent à rebondir comme ça, sous la contrainte.
Je vois plus comme ça. Je vois plus en équipementier, oui. Enfin, par exemple, voiture, il y en a quand même commencé.
Et là, on n'a pas évoqué, on parlait du moteur électrique, mais ils sortent pas qu'un vélo électrique, ils sortent un moteur électrique qui a une puissance incroyable et qui vient concurrencer le moteur de Bosch, qui est un bijou de technologie. Donc là aussi, ça va être la guerre sur les moteurs électriques et sur l'efficience de ces moteurs. Donc, à suivre, DJI. Dans l'actu, puisque le temps passe vite, dis donc, il nous reste 6 minutes, je voulais qu'on évoque en fait un consortium qui s'appelle le NFC Forum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le NFC, cette puce incroyable qu'on a tous découvert avec le Covid et qui nous a permis de découvrir le paiement sans contact, au début avec la carte bancaire et aujourd'hui avec le téléphone portable. Moi, je ne sais pas vous, mais je me sers tout le temps de mon téléphone pour payer en NFC, c'est génial. Et il faut savoir que ce NFC Forum est en train de travailler sur une nouvelle version de protocole en fait de connexion qui s'appelle le NFC Multipurpose Tap et qui va permettre de faire beaucoup plus de choses avec le NFC. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu.
Tu pourras faire, tu tapes une fois, tu pourras faire ton achat, avoir tes cumuls de points de fidélité et puis également avoir ton reçu. Donc ça va faciliter la vie des commerçants déjà.
En gros, je prends un exemple, je suis chez Carrefour ou un hypermarché.
Ouais.
Avant, je payais, mais je n'avais pas ma carte de fidélité et je n'avais pas mon ticket en fait, dans mon téléphone. C'était finalement, il fallait aller sur l'appli de l'hypermarché. Là, simplement en faisant ça, je vais payer, je vais avoir mes points fidélité et j'aurai mon ticket qui va s'afficher sur mon téléphone.
Mais ce qui est assez fou quand même,
ce qu'ils disent
pouvoir faire, c'est aussi d'avoir un contrôle de l'âge parce que tu pourrais t'en servir dans les bureaux de tabac, donc pour acheter des cigarettes ou chez Carrefour encore pour acheter de l'alcool. Là, il faudra quand même voir sur la notion d'âge, comment on va arriver à faire ça sans qu'il y ait de partage de données, enfin toutes les problématiques évidemment de respect de la vie privée, comment on va arriver à ça sans qu'il y ait de problème là-dessus, mais c'est quand même assez ingénieux. Et puis aussi pour le ticket papier, là on voit de plus en plus d'efforts de la part des commerçants de proposer si on souhaite ou pas un reçu de façon électronique ou de façon papier. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent le reçu de façon papier, peut-être par automatisme. Donc c'est bien s'il y a ce nouveau type d'automatisme qui s'installe.
Guillaume, tu as suivi cette innovation?
Oui.
Qu'il en est encore au... c'est embryonnaire. Hein. Le NFC Forum dit c'est pas pour tout de suite, mais on y travaille.
Ouais, non, mais c'est sûr que ça fait partie des innovations qu'on utilise en permanence et on s'imagine de moins en moins en fait avoir besoin d'un contact physique pour payer, pour utiliser ses cartes de fidélité. Ça passe un tout petit peu sous les radars, mais c'est vrai que le Covid revient en force, un Covid qui on sait pas trop, un jour on est malade, l'autre pas, donc c'est quelque chose qui est censé
c'est pour ça qu'on s'insérer. Est isolé Fred.
C'est bronchiolite qui est venu.
La bronchiolite, c'est dingue ça.
C'est
vous avez vu qu'ils ont, ils vont refaire des campagnes de vaccination de bronchiolite
pour
là.
Les seniors, j'ai postulé.
J'ai
coché la main.
Allez, premier. Non,
mais c'est vrai que la bronchiolite, c'était les bébés au départ.
Bah oui.
Donc
voilà, peut-être.
Il y a un bébé en Frédéric.
Il y a un bébé en moi, voilà.
Il y a un bel enfant en Frédéric. Rien à dire là-dessus, Fred. Bon, on a fait le tour de toute façon. Mais c'est intéressant quand même.
Bah, moi, je suis toujours surpris. Bah, c'est toi qui m'avais branché là-dessus. C'est déjà la carte de métro, là. Le pass Navigo qu'on a en direct sur son smartphone.
On a été en retard là-dessus, hein, parce à Londres, ça fait 6 ans, 7 ans que tu mets juste ta carte de crédit, hop.
Oui, mais là, maintenant, tu mets ton téléphone, tu n'as même pas ouvert l'application, tout ça. Voilà.
Ah, mais c'est génial. Et même si ton téléphone est éteint, ça fonctionne. Ouais. On ne se rend pas compte de la puissance de la puce NFC, c'est incroyable. Pour terminer, petite bataille aussi, il nous reste 2 minutes. On ne va pas avoir le temps de vraiment d'épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'on arrive là. Dans quelques jours, Samsung va dévoiler ses nouveaux téléphones pliants, les Z Flip 6 et les Fold 6, à quelques jours des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'en plus, Samsung est partenaire premium, je crois, de ces JO.
Ils vont en offrir même à tous les athlètes.
Ils vont en offrir à tous les athlètes, etc. Tout ça pour dire que finalement, on se rend compte que, à part Apple, tout le monde se met sur les smartphones pliants. Je sais que tu suis ça, pas mal, sauf Apple. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Et puis surtout, on parlait de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Et on a vu effectivement Huawei qui était un des premiers à lancer ce téléphone pliant. On voit bien que les Coréens sont, alors, en dehors de LG, qui a abandonné les téléphones portables, mais en l'occurrence Samsung, le premier vendeur de téléphones au monde, est le grand gagnant de ces nouvelles habitudes de consommation. Alors ça peut être souvent un peu imposant, ils ont des modèles qui veulent plus lifestyle, mais on voit que c'est véritablement eux qui tirent leur épingle du jeu.
Oui, il y a Motorola autres, qui est revenu, on a reçu le patron de Motorola la semaine dernière.
Bien sûr, ils s'y mettent,
quand j'étais
il y a Honor, il y a Xiaomi.
Quand j'étais à ta place, là, Pierre Hotte.
La semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, avec les nouveaux... Et alors, eux, ils jouent beaucoup le côté vintage, puisque les premiers... Le StarTAC, qui d'ailleurs rappelait l'Enterprise avec les... Cette série Star Trek, voilà. Décidément, j'ai du mal à trouver les mots. C'est la bronchiolite.
La bronchiolite. Hein,
non, mais ils jouent beaucoup sur le côté vintage, Motorola, justement. Ils rappellent le StarTAC, justement, dans cet appareil-là. Ils en sortent 2 nouvelles versions. Alors, pour ceux qui utilisent beaucoup les pliables, on a Lucas Perraudin qui vient souvent ici, nous disant, une fois qu'on l'a utilisé, on ne peut plus s'en passer.
Claudia, t'es tentée par les téléphones pliants ou pas ?
Oui, franchement, oui, parce que l'époque des téléphones pliants, mais où il y avait juste l'écran quand tu ouvrais, franchement, me manque. Et c'est pas bien ce que je vais dire. J'ai l'iPhone depuis toujours. Depuis que je suis à l'université, bref. Et en fait, on a tous les mêmes téléphones. Et franchement, il n'y a pas d'originalité. Et moi, j'ai envie d'avoir un truc qui a de la couleur, qui change. Après, il faut dire
Claudia
deux choses.
Claudia veut se démarquer. Elle veut se démarquer.
Oui, c'est bon, tout le monde. Et un peu pareil maintenant, mais deux choses quand même plus sérieuses, pardon, sur ces téléphones. Il y a quand même un problème de prix encore, parce que c'est un marché qui reste très premium, avec des téléphones assez chers, donc c'est pas pour tout le monde. Donc on va voir les prix qui vont être proposés par les uns et les autres.
C'est beaucoup plus cher en général.
Et après, t'as quand même des petits problèmes aussi de réparabilité parce que ça a tendance.
Le Samsung était à 2005 au début, le premier prix.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ça chez les Fairphone qui sont censés être les téléphones réparables européens.
Européen,
on est vraiment sur le signe de la souveraineté numérique.
Mais gageons qu'Apple va venir sur ce segment du client.
Et là, ils vont tout casser.
On murmure 2026. Voilà, pour le premier téléphone pliant d'Apple. Je sais que certains de nos débriefeurs n'y croient pas. Moi, j'y crois dur comme fer. Je suis persuadé qu'il y aura un iPhone pliant qui va arriver. Merci beaucoup à tous les trois. C'était top. On a passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, qui nous regardez ou qui nous écoutez, merci beaucoup à Claudia Cohen.
Merci.
Journaliste au Figaro. À très bientôt, Claudia. Je ne pense pas qu'on se revoit d'ici les vacances.
Non, je pars en vacances dimanche. Je vais voter. Je m'en vais.
C'est très bien. Bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Guillaume, pareil, bonnes vacances.
Merci beaucoup, François.
Et on se retrouve, si tu le veux bien, à la rentrée. Fred, nous, ça sera la semaine prochaine.
Lundi, oui.
Voilà, bien sûr, pour débriefer l'actu.